Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on enflamme, on critique les shows de la WWE et consorts. Ce soir, ça va envoyer du lourd, ce soir nous sommes en guerre, et comme nous sommes en guerre, je me protège avec des alliés, des résistants, des vétérans, des poilus. Je suis avec, à ma gauche, l'ami Tonton Chris, que je n'avais pas eu le plaisir d'avoir à mes côtés depuis longtemps. Donc, salut Tonton, comment ça va depuis le temps ?
Salut Raphaël Hier, salut peuple de catch-up. Eh ben écoute, ça va plutôt bien, hein. On sort d'un Wargames, avec le papy, on s'est enchaîné un Raw et un SmackDown. Donc, je crois qu'on est chaud comme de la braise.
Ah ben, est-ce qu'on confirme à ma droite, papy, est-ce que tu es bouillant, papy ?
Bonjour les enfants, bonjour Raphaël, bonjour Tonton. Oui, je suis bouillant là, je me suis bouillanté d'ailleurs avec ma petite théière là. J'ai voulu me faire une petite camomille avant le show, mais je me suis raté.
Ah zut, bah justement, en plus j'ai entendu dire que tu avais beaucoup de choses à nous raconter sur cette soirée des jeux de la guerre. Donc on va commencer de suite, Wargames, mais pour rentrer en douceur dans l'événement, je vous propose de commencer par un peu de douceur féminine. Est-ce que ça vous va, les amis ? Chris, la féminité, tu es d'accord ?
Ah, complètement, je suis féministe.
Ah, 1-2-1-2, je ne t'entends pas, Chris.
Ah, pourtant, je suis là. Comment ça, tu ne m'entends pas ?
Ah,
j'ai pas peur, c'est
attends, ça. Que tu m'entends, moi, Raphaël ?
Bah, moi, je vous entends tous les deux, en fait.
Je n'entends plus personne.
Ah, bah, il y a que Raph qui
t'entend. Ah, bah, ouais, tu m'entends, papy, là ?
Moi, je t'entends.
Alors, oh, moi aussi, je t'entends. Mais alors, c'est Raphaël. Alors, c'est la jeunesse qui déconne avec la technique.
Bon, qu'est-ce qui se passe ? Il voulait nous parler des femmes en plus, c'est intéressant.
Ah, mais ouais, voilà, pour une fois qu'il avait parlé d'un truc sympa, là.
Ah, mais je vous entends à nouveau, mais je ne vous entendais plus du tout, vous m'entendiez ?
Mais oui.
Nous on t'entendait, mais toi apparemment tu ne nous entendais plus.
Bah non, je vous entendais plus, je voyais plus rien, les petites icônes ça clignotait pas. Bon bah écoute, quelle soirée. On essaye quand même de continuer.
Ah bah on continue, on est chaud.
Ouais. Hein. Allez, on est chaud.
On en a profité pour dire trois conneries, donc tout va bien.
Eh ben ok, donc c'est le Wargames féminin qui commence. Alors donc deux équipes de quatre. D'un côté, Raquel Gonzalez, Dakota Kai, Toni Storm et la chef de l'équipe Candice LeRae. De l'autre, Rhea Ripley, Sachi Blackheart, Ember Moon et donc le quatrième membre, Yoshirai, qui a été décidé au dernier NXT. Donc le principe de Wargames, rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, deux catcheuses commencent sur un double ring entouré de cages. À intervalles réguliers, il y a une catcheuse d'une des deux équipes qui arrive jusqu'à ce qu'il y ait tout le monde, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer et finir le combat. Alors ça commence par Ember Moon contre Dakota Kai, où les deux s'envoient un peu des kicks à haut niveau sur la tête, drop kick dans tous les sens. Sachi Blackheart arrive puisqu'ils avaient gagné l'avantage au dernier NXT, donc les gentilles sont deux contre une. Et en plus, Sachi Blackheart apporte une jolie boîte à outils, une petite caisse à outils. Elles en profitent un petit peu à toutes les deux, et notamment, donc, Ember Moon porte Dakota Kai sur ses épaules pendant que Sachi Blackheart lui envoie un missile dropkick depuis le turnbuckle. Mais Raquel Gonzalez arrive, et c'est un peu l'élément qui va faire tourner la situation, puisqu'à elle, toute seule, elle va à peu près démonter les deux autres filles. Donc elle fait un powerbomb notamment sur Sachi Blackheart sur la cage. Elle attrape Dakota Kai pour les envoyer sur les deux autres. Bref, Rhea Ripley arrive pour équilibrer un petit peu les débats. Rhea Ripley elle éclate un petit peu Dakota Kai et ses copines enchaînent les prises sur Raquel Gonzalez pour diminuer un peu la powerhouse du match. Rhea Ripley a sorti de la caisse à outs un marteau, un sledgehammer, et elle s'en occupe, elle l'utilise pour taper Dakota Kai. Elle va utiliser aussi sa ceinture, elle enlève sa petite ceinture, Rhea Ripley, elle se met à l'aise pour taper un petit peu Dakota Kai. Toni Storm finit par arriver, elle ramène elle aussi des cadeaux, décidément c'est Noël, elle ramène des kendo sticks, et elle décide d'enlever un petit peu toutes les protections des turnbuckles dans les coins du ring, elle envoie d'ailleurs Rhea Ripley dans un coin de métal. On a le segment un peu qu'on attendait à tout le monde, donc elles sont 6, et puis ça fait une prise un peu dans les coins là où, alors dans le détail, c'est Toni Storm et Raquel Gonzalez qui envoient Sachi Blackheart d'un côté, et Ember Moon et Rhea Ripley qui envoient Dakota Kai de l'autre. Yoshirai arrive, On n'est pas fini dans les cadeaux. Yoshirai, elle nous apporte des échelles pour complémenter un petit peu le ring. Sauf que Raquel Gonzalez fait tout pour empêcher Yoshirai de rentrer. Elle y arrive. Yoshirai se démonte pas. Elle va chercher une deuxième chaise qu'elle fait rentrer. Puis une deuxième échelle, pardon, puis des chaises. Sauf que Raquel Gonzalez et Toni Storm réussissent à fermer la porte et à la fermer à l'aide de la ceinture de Rhea Ripley, si j'ai bien compris. Bon, Yoshirai essaye de rentrer en grimpant par le haut, mais elle n'y arrive pas non plus. Bon, bref, c'est un petit peu le bordel. Et Candice LeRae finit par arriver. Et puis, elle se retrouve face à Yoshirai, puisqu'elles sont toutes les deux dehors. À ce moment-là, débarque la cinquième, dont je n'ai pas le nom. Papy, tu vas peut-être pouvoir me dire, on va voir si tu suis. C'est, comment elle s'appelle, celle qui a la Minerve, là, qui est toujours à tourner dans les parages.
India Arwell.
Et voilà, George Orwell, exactement. Donc, Orwell, la cinquième, elle arrive, elle attaque Yoshirai, elle ramène aussi des chaises et des poubelles. Du coup, cette fameuse George Orwell, elle ferme la porte à clé et qu'elle cache dans son soutif pour pas que les arbitres viennent lui voler. Du coup, elles sont quatre à l'intérieur du ring chez les méchantes et Yoshirai est toujours bloqué dehors. Sauf que ben, tant que Yoshirai rentre pas, le match officiellement n'a pas commencé. Donc, c'est un peu délicat comme situation. L'équipe de Candice LeRae, elles ont les kendo stick et se mettent à tabasser tout le monde, notamment Sochi Blackheart. Puis finalement, en fait, Yoshirai, elle était montée par le toit de la cage, donc elle se glisse dans une poubelle avant de sauter dans le vide sur tout le monde, et ça y est, les Wargames ont officiellement commencé. Yoshirai, c'est la tornade, elle envoie un peu tout le monde dans tous les sens. Les quatre gentilles éclatent les quatre méchantes, notamment il y a un moonsault de Yoshirai qui est fait sur Raquel Gonzalez pendant que les autres la tiennent. Blackheart qui va sortir le kendo stick pour défoncer un petit peu Candice LeRae au grand plaisir de Papy. Et il y a une éclipse, une superbe éclipse d'Amber Moon sur Dakota Kai en lui mettant la tête sur des chaises ouvertes. Il y a des spots dans tous les sens. Yoshirai et Rhea Ripley ensemble. Candice LeRae qui fait un petit peu le ménage à un petit moment. Sochi Blackheart et Candice LeRae qui sont toutes les deux en haut d'une échelle. Sochi Blackheart fait tomber Candice LeRae puis elle lui saute dessus. Mais Candice LeRae tenait une chaise donc elle se fait mal aussi, la jeune femme aux cheveux verts. Et puis au final, Yoshirai tente un Hurricanrana sur le turnbuckle sur Raquel Gonzalez, mais la Latino est plus forte, elle tient Yoshirai, elle la contre, powerbomb à une main sur une échelle qui se brise et qui permet de placer le tombé victorieux. Ouf, je vais boire un coup, victoire de la team Candice LeRae, Papy, j'ai hâte d'avoir ton avis sur ce match et sur cette victoire des méchantes.
Oui, bah oui, profites-en pour bien boire un long coup. Effectivement, je pense que la durée de ton résumé et finalement ce que je pense un peu du match, c'est qu'ils ont fait beaucoup de spots dans ce match-là. Il y en avait deux partout, si bien qu'à la fin, il y avait eu des petits moments où j'ai trouvé qu'il y avait des petites latences parce que les filles, elles ne savent plus trop se positionner parce que à force d'enchaîner les spots, c'est forcément un peu moins fluide. Notamment sur toute la partie finale, mais bon, elles ont comme eu l'occasion toutes de briller. Raquel Gonzalez qui paraît super méga forte là, parce que du coup, elle a fait une grosse entrée, puis en plus, elle remporte la victoire contre la championne en titre. Donc, je pense que là, c'était un vrai message qui était passé de dire, cette fille-là, elle est vraiment forte, parce qu'en plus, elle gagne plus ou moins clean. Les filles, il y a pas, enfin, si une intervention au début, mais bon. Sur tout le segment final, elles sont quand même juste 4 contre 4. C'était plutôt bien comme match. Et vraiment beaucoup de spots marquants. Mais voilà, j'ai senti quand même qu'elles étaient un petit peu à bout de souffle, les filles. Un peu comme toi, en faisant le résumé, les filles étaient un petit peu à bout de souffle sur la fin. Mais en tout cas, victoire bien décisive de Raquel.
Tonton Chris, quelle est ton opinion là-dessus ?
J'ai deux déceptions dans ce match. La première, c'est que ce match a été placé en opener. J'avais appelé de mes souhaits pendant la baston du mercredi avec le papy que ce match soit le main event, plus ni moins. Je voulais que les femmes soient à la honneur dans ce takeover. D'ailleurs, papy aussi. De toute façon, on était tous les deux d'accord sur le principe que c'était le match qui devait fermer ce takeover pour la bonne et simple raison déjà que l'équipe des Faces était quand même une équipe all-star. Avec trois anciennes championnes du monde, championne NXT, pardon. Donc ça a été ma première déception. Ma deuxième déception, bon ça c'est un petit peu différent, mais c'est la défaite des gentilles, parce que moi j'aspirais à une victoire des Faces, et ça n'a pas été le cas. Voilà, ça c'est mes deux déceptions. Mais après moi, eh bien, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce match. J'ai trouvé que les filles se sont envoyées, mais comme jamais. Ça a été super stiff. Ça a été tellement stiff que il faut savoir que Candice LeRae a fini à l'hôpital avec une fracture du bras. Et c'est pas du kayfabe. Moi, j'ai trouvé ce match vraiment super. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait de l'intensité tout le temps. Effectivement, il y a beaucoup de spot fest, mais il y a des trucs assez incroyables. Il y a la poubelle que s'enfile Yoshirai pour faire un strike au milieu du deuxième ring là. Et il y a le passage où Raquel Gonzalez passe à travers l'échelle Yoshirai. J'ai trouvé Rhea Ripley un petit ton en dessous finalement, mais j'ai trouvé que pour moi la MVP du match, c'est véritablement Yoshirai, que j'ai trouvé extraordinaire. En plus, j'ai trouvé que c'était bien réfléchi, toute cette phase quand elle est arrivée, où d'abord elle est restée ringside, où il y a eu tout le bordel avec Indy Hartwell en l'occurrence. Voilà, ça n'a pas arrêté de cogner dehors pendant que ça se tabassait à l'intérieur. Finalement, Io, elle a réussi à rentrer. Quand elle rentre, elle fait pendant, 3-4 minutes, c'est elle qui dicte le tempo, hein, c'est elle qui bat la mesure. Et ça envoie du pâté. Ah, vraiment, moi, j'adore cette japonaise, quoi. Je la trouve, mais phénoménale, quoi. Et tout y passe. Hein. Il y a un moment, elle fait un poste. Je crois que je compte, elle fait 6 spots consécutifs, dont un 619, dont un moonsault, dont un code breaker. Enfin, je veux dire, si quelqu'un vient me dire que Yoshirai, techniquement, elle n'est pas au poil, pour moi, c'est Yoshirai, je vais la comparer à Daniel Bryan. Cette nana, elle utilise un arsenal de prises. J'ai pas vu ça depuis très, très longtemps. Et à part Asuka, j'ai pas beaucoup de références à ce niveau-là. J'ai rarement vu une femme avoir un moveset aussi complet et aussi varié. Et vraiment, j'adore. Et pour le coup, j'ai été vachement enthousiaste par le match. Alors voilà, mon cœur s'est brisé au moment du pin final. Mais c'était pour moi, en tout cas, c'était un très bon match.
Ouais, une belle déclaration d'amour de tonton Chris à Yoshirai.
C'est la première fois. Hein.
Une nouvelle déclaration d'amour. Je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, je partageais pas. Enfin, face à l'Indisputed Era au grand complet, quand même, ça me semblait difficile de tenir le main event. Je suis d'accord avec.
Ouais. Pas trop d'accord avec
ça, mais on en
reparlera.
Ouais.
Mais je suis d'accord avec ton Chris sur le. Ah, moi, j'aurais bien aimé voir gagner les gentils. Il y avait une vraie gold, une vraie golden team là. Mais belle analyse de papy aussi. Je pense que voilà, ils vont servir de cette victoire oui. Des méchantes pour dessiner une challenger à Yoshirai qui en avait pas trop. Ils ont plutôt joué le côté breakout, c'est-à-dire c'est celles qui sont un petit peu en dessous qui ont gagné par rapport à celles qui ont déjà tout gagné en quelque sorte. Mais moi j'ai beaucoup aimé le côté chaotique du match, ouais, c'est-à-dire que il n'y a pas eu ce côté un peu linéaire où on a beaucoup d'enchaînements parfois de 1 contre 1, puis des spots un peu 4 contre 4. Là, des fois, c'était 2 contre 1, 2 contre 3, 3 contre 4, 4 contre. Enfin, c'était un vrai bordel et j'ai beaucoup aimé. Donc gros main event. Gros opener du coup.
Lapsus.
Mais moi qui ne regarde pas NXT toutes les semaines, j'attendais un peu de voir le niveau de certaines. J'ai été relativement conquis et convaincu. Donc. Effectivement, ils ont beaucoup utilisé les objets, ça c'est un peu la petite subtilité, parce que bon, on sait bien que prendre un coup de poubelle en aluminium, c'est fait pas très mal en vrai, mais ça fait spectaculaire, donc ils sont un peu cachés derrière là, mais bon, c'était stiff quand même, et la preuve c'est que voilà, on a pété le bras à Candice LeRae en plus, donc que de bonnes nouvelles, très bon début de soirée et très bonne tenue de standing pour les filles, je trouve. Mais maintenant, si ça vous va, on va repartir sur quelque chose d'un peu plus, d'un peu moins féminin, d'un peu moins joli, d'un peu moins esthétique.
Oui. Je voulais juste, j'ai oublié un petit détail quand même, mine de rien, mais c'est que le match, il a quand même duré 35 minutes 20. C'est un c'est du lourd, hein, de l'opener féminin, c'est du lourd. Hein, un match de 35 minutes, chapeau les filles.
Ouais, de toute façon, enfin, je sais pas si tu as les statistiques sous les yeux, mais depuis que les Wargames sont à NXT, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient fait moins de temps. Enfin, souvent ils sont longs, hein, les Wargames, mais
pour un match féminin, je pense quand même que là on est dans une catégorie très haute là par rapport à habituellement.
Ouais, de toute façon, c'est que le deuxième, non, Wargames féminin.
C'est pas avant des Wargames féminins, enfin pas trop, ils en ont fait qu'un avant.
C'était celui avec Rhea Ripley où son équipe était à moitié vide. Donc bon, ça devait être plus couru. Bon, allez, on va passer chez des barbus, chez des transpirants, chez des chauves. Tommaso Ciampa affronte Timothy Thatcher. Alors ça, on sait que ça va pas être beau. On sait que ça va être du stiff. On sait que ça va être du violent. Et on en a eu à peu près pour ce qu'on attendait. Donc, résumé de cette rencontre. Ça commence au sol, évidemment. Là, on est avec des soumisseurs, des tordeurs de bras, des tordeurs de jambes, des travails de jambes. Donc, c'est d'abord Thatcher qui travaille un petit peu Tommaso Ciampa. Assez tôt dans le match, il y a un très gros uppercut entre les cordes de Thatcher qui sonne complètement Ciampa. Il va mettre longtemps à s'en remettre. Hein. Il prend d'ailleurs toute la série, les fameux coups de genou au sol qu'envoie Thatcher. Il travaille cette fameuse la gorge, le cou. Là, c'est pas beau, mais c'est efficace ce que fait Thatcher. Puis Ciampa finit par se réveiller. Il envoie une série de closest line en partant d'un côté, de l'autre, en revenant. Il est assez virevoltant. Il place même une superplex depuis le turnbuckle, donc grosse série de Ciampa, mais ça fait simplement deux near fall. Tout le monde finit par rouler à l'extérieur du ring, ça revient sur le ring au décompte de 9 de l'arbitre pour Ciampa, il a échappé belle. Ciampa envoie un gros coup de pied dans la tronche de Thatcher et ensuite l'étrangle au sol. Alors Thatcher, il pisse le sens de l'oreille, enfin je pas trop ce qui s'est blessé, mais il pisse le sang tout le temps. De toute façon, Thatcher, là, il a déjà la moitié de ses dents qui sont parties. Là, il a la moitié d'une oreille. Bref, c'est pas assez dirty, ça saigne dans tous les sens. Au final, c'est quand même, grâce à un kick dans les cordes, une guillotine et un DDT, Tommaso Ciampa qui l'emporte. Le vétéran a un petit peu réussi à reprendre le dessus et à calmer, puis qu'on peut pas vraiment appeler un petit jeune quand même, mais qui était un peu une star montante de NXT. Bon, de la sueur, du sang, tonton Chris, c'est ce qu'il fallait d'après toi, juste après ce match féminin? Qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors écoute, moi j'avais pronostiqué la victoire de Ciampa. J'étais loin de m'attendre à un match aussi long, parce que ça a duré quasiment 17 minutes. Moi j'ai trouvé ça un chouille trop long, mais pour une bonne et simple raison, c'est que là c'était vraiment un match pour les amateurs de mat wrestling, de chain wrestling. Là, on était vraiment dans un match vraiment spécifique avec des gars qui contraient et recontraient et re-recontraient des prises de soumission. Alors effectivement, il y a eu quelques gros coups de latte et quelques mandales dans la gueule bien, bien saignantes. Hein. Mais c'était quand même globalement un gros match de mat wrestling, quoi. Et peut-être que pour des gens pas trop habitués, ça n'a peut-être pas été forcément très très facile à regarder, quoi. Je suis pas sûr que ça soit un match très mainstream. Voilà, si je devais utiliser un terme pour illustrer ce match-là, ça serait ça, quoi. Et je pense qu'on a fait gagner. Alors c'est ce que j'avais dit pendant la baston du mercredi, mais je pense qu'on fait gagner Tommaso Ciampa pour le relancer justement et pour le remettre plus haut dans la carte. Et je constate que Timothy Thatcher, toutes les semaines à NXT, il nous fait des leçons de lutte, mais à chaque fois que il participe à un match qui compte, et ben il le perd.
Ah oui, mais toi, à titre personnel, Chris, tu aimes ou pas ça, ce mat wrestling,
Moi, ça me déplaît pas, mais moi je suis pas contre un match de mat wrestling, mais plus court.
Plus court, pas petit.
Pour un 11-12 minutes m'aurait suffi. Au bout d'un moment, j'ai commencé à trouver le temps un peu long, je dois reconnaître.
Effectivement, c'est vrai que ça pouvait sembler long. Alors moi, je suis plutôt bien... pas fan, mais en tout cas j'apprécie quand les mecs se foutent vraiment sur la gueule et se font mal. Alors c'est finalement ce qui sauve un peu
ce sadique.
ce qui sauve un peu malgré tout le match, c'est le fait que Thatcher se met à pisser le sang partout, la mine de rate, tu dis oh, putain, ils sont vraiment mal là, les cons là, hein, ils sont vraiment en train d'y aller. Et bon, c'est pas volontaire, mais du coup ça rajoute un peu de dramaturgie au match. Je me suis dit plein de fois, oh là là, mais c'est pas possible qu'il se relève de ça. Surtout Ciampa, il prend vraiment cher sur son coup à plusieurs moments. Mais ouais, moi j'apprécie plutôt les deux gars en plus, je trouve qu'ils sont plutôt bien. Alors moi j'ai parié sur Thatcher parce que comme le dit Tonton, il enchaîne les défaites et donc ça serait bien qu'il gagne un match. Bon, ça sera pas pour ce soir, malheureusement pour lui. Ciampa aussi a besoin d'une victoire. Bon j'ai misé sur le mauvais cheval et puis voilà, mais sincèrement c'était plutôt bien. Alors c'est marrant parce que du coup ça fait vraiment opener comme match, alors que finalement c'est le deuxième match de la soirée parce qu'on a eu le main event juste avant. Mais bon, c'est toujours bizarre cette carte.
C'est vrai, tout était à l'envers là-dedans.
Ouais, moi j'ai bien aimé. Hein. Enfin, ces deux gars qui ont un style. Enfin, Tommaso Ciampa, on l'a vu faire d'autres types de matchs, mais c'est vrai que Thatcher, il est un petit peu... Alors, effectivement, comme tu dis, Tonton, est-ce que c'est mainstream? Je sais pas trop quoi pronostiquer de la carrière de ce garçon, parce que c'est vrai qu'il a vraiment un style, il est voûté, il est un peu bossu, il a plus de dents, il est machin. Mais bon, il, dans ce qu'il sait faire, il sait le faire, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Enfin, voilà, quoi, c'est... Là, c'est du catch, comme dit Papy, ou c'est presque du Raw Underground, quoi. C'est du NXT Underground. Ça s'envoie des grandes baffes dans la gueule et ça se tape sur la gorge et ça s'étouffe. Donc, je ne sais pas si c'était trop long, parce que je trouve que si ça avait été plus court, ça aurait moins marqué. Alors que là, il y avait ce côté beaucoup de near-fall quand même, où tu te dis, ouais, putain, les bonhommes, ils s'envoient lourd dans la gueule et ils se relèvent. Mais c'est vrai que ça ressemblait plus à un opener. Ouais, je suis assez d'accord.
Et tu vois, pour des connaisseurs, eh ben, Cage Match, qui est le site référence qui te donne toutes les... qui met des notes, qui te donne les timings, qui te donne à peu près tout, quoi. Qui est allemand. Eux, ils notent sur 10. Et moi, j'étais étonné hein, de la note qu'ils ont donnée à ce match-là, hein, puisqu'ils ont donné quasiment un 8. Hein, ils ont donné un 7, 77, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé que ce match avait été noté super haut. Et en regardant un peu avant de vous rejoindre dans le studio, en regardant un peu les critiques, etc., effectivement, ce match apparemment a vachement plu aux suiveurs.
Hein. Ouais, moi, j'aime bien. Enfin, ça ne me surprend pas que ça ait plu aux hardcore fans, parce que je l'ai trouvé assez impressionnant, assez stiff. Après, bon, ben voilà, hein, on verra quelle note Ketchup donnera à la fin de ce show, parce que c'est ça les vraies notes qui comptent finalement.
Mais hein, ouais, les seules notes qui comptent, c'est bien celles de Ketchup!
Enfin, tonton, on t'avait dit d'arrêter d'aller chercher les Allemands à chaque fois. Depuis...
Ah, ça nous rappelle de bons souvenirs.
Bon, oh, bah, allez, je vous propose, si vous voulez, de passer sur une note un petit peu plus légère. Peut-être dire le comedy match de la soirée, ça serait peut-être un peu exagéré, mais quand même, presque. Dexter Lumis, l'Américain psychopathe, affronte Cameron Grimes dans un strap match. Donc, on se souvient que les deux hommes avaient eu ce mythique... déjà mythique match de Halloween Havoc. Donc c'est la revanche ou la belle, je sais plus à combien ils sont d'affrontement. Alors Cameron Grimes, il arrive avec son propre strap. Hein, ce strap, c'est comment on traduit en français d'ailleurs, c'est
ça
corde.
Ouais, je sais pas si on peut le traduire véritablement quoi.
Mais... Bref,
c'est un truc de cuir là, une lanière de cuir.
Ouais, lanière de cuir, ouais, voilà, ouais.
Voilà.
Ça n'a pas d'équivalent en français spécifique, je pense.
Ben, si vous l'avez, peuple de catch-up, dites-nous en commentaire. En tout cas, voilà, la règle est simple. Il faut que les deux soient attachés chacun par un de leurs deux poignets à l'une des extrémités de cette corde pour que le match commence. Sauf que Cameron Grimes, il n'attend pas. Il va attaquer Lumis avant le début du match. Il l'envoie dehors dans les barrières. Il utilise cette fameuse strap pour le taper un peu dans tous les sens. Mais Lumis finit par se réveiller. Il remonte sur le ring et il met le strap à son poignet. Donc le match commence officiellement. D'ailleurs, ils sont rentrés dans le ring pour ressortir de suite, puisque Dexter Lumis va projeter Cameron Grimes un petit peu partout dans les barrières. Grimes fait de même en envoyant Lumis tomber par derrière les barricades. Et ensuite, il y a un move sympa là où, j'ai trouvé ça assez impressionnant, où Cameron Grimes tire la corde, tire le strap très vite, ce qui fait que Lumis fait une espèce de roulet-boulet par-dessus les barrières. Cameron Grimes, je ne sais pas comment le surnommer, le petit trublion là, avec son chapeau, se met à dominer un petit peu la rencontre. Il va même chercher le deuxième strap qui était sur le bord du ring. Il prend le sac de ce strap et il le met sur la tête de Dexter Lumis. Mais Dexter Lumis réussit à placer un spinebuster à l'aveugle. C'est quand même impressionnant. Alors quand je dis à l'aveugle, ça ne veut pas dire qu'il le fait à Gilbert Montagné, hein, mais ça veut dire qu'il le fait sans rien voir. Et puis, voilà, il va y prendre le strap, il va fouetter un petit peu Cameron Grimes qui prend cher. Cameron Grimes réussit à placer un German suplex et envoyer Dexter Lumis dans le turnbuckle pour se remettre un petit peu. Il sort une chaise, il se repose un petit peu. Cameron Grimes, il fait son ouh là, un peu hihi, je sais pas trop comment. Sauf que Lumis se réveille. Il fait tomber Cameron Grimes la tête de la première sur la chaise et il le coince dans sa prise de soumission dans le silence. Cameron Grimes abandonne. Dexter Lumis a à nouveau gagné une nouvelle stipulation, un nouveau match à stipuler entre les deux hommes. Est-ce qu'ils ont réussi à raconter quelque chose de plus? Qu'est-ce que tu en as pensé, Papy?
Alors oui, je pense qu'ils ont réussi à éveiller un minimum mon intérêt, parce que moi, je n'étais pas du tout hypé par ce match-là. J'avais un peu ras-le-bol de cette rivalité. Et puis, le strap match, ce n'est pas vraiment la stipulation plutôt qui fait rêver. Et donc, du coup, je m'étais dit, ce match-là, ça va être la bouse de la soirée. Et mine de rien, j'ai trouvé qu'ils ont plutôt bien joué sur l'histoire du strap et fait des spots plutôt vraiment sympas. Notamment le final, là, où ils arrivent, en fait, ils catapultent Cameron Grimes sur la chaise en tirant sur le strap. Ils ont plusieurs fois joué là-dessus en tirant l'un et l'autre pour faire tomber l'autre et faire des mouvements assez spectaculaires. Donc j'ai envie de dire qu'ils ont rattrapé le coup d'un match qui n'était pas du tout envie. Et donc ça c'est félicitations pour eux pour ça, pour réussir à maintenir mon intérêt. Par contre j'espère qu'ils vont arrêter derrière, parce que faut arrêter là, faut que Dexter Lumis il passe à autre chose quand même.
Ouais, Chris.
Écoute, 13 minutes de match, c'était pas trop mal. Bon, moi, je l'avais subodoré la victoire de Dexter Lumis et j'en suis bien content. Effectivement, je fais partie aussi de ceux qui espèrent voir cette rivalité s'arrêter. Je suis pas un fanat de Cameron Grimes qui m'indiffère, en fait, pour tout dire. Écoute, j'ai trouvé que c'était un bon match de weekly de NXT, mais pour moi, c'était pas un match du niveau de TakeOver.
Oh, tonton Chris est sévère. Moi, j'ai plutôt bien aimé. On avait un enchaînement de trois matchs là qui étaient dans des rythmes complètement différents et qui dégageaient pas la même ambiance. Là, c'était un peu plus léger. Ça, c'était pas malvenu, je trouve, à ce moment-là de la soirée. Et moi, je trouve qu'il y a une bonne alchimie. Enfin, les deux ont plutôt l'air de bien s'amuser. Dexter Lumis, c'est un beau potentiel qui monte en puissance cette année. Et alors, je suis peut-être d'accord avec toi sur le fait que Cameron Grimes va être un catcheur un peu plus, on va dire, anecdotique dans l'histoire du catch, mais bon, il s'amuse et je trouve qu'il s'entend bien avec l'autre, visiblement. C'était pas mal. Moi, j'ai plutôt passé 13 bonnes minutes, vois-tu.
Tant mieux.
Tant mieux, voilà.
Ça fait plaisir.
Ça fait toujours plaisir de passer 13 minutes de bonheur en regardant du catch.
Bah oui, bien sûr. Alors, le match suivant, lui, va peut-être moins plaire à l'un d'entre nous. Je n'en dis pas plus, vous allez comprendre. Ah oui, alors juste avant, on a un très court clip qui se passe en noir et blanc où on voit une horloge, quelqu'un qui dit TikTok et un urubu à tête rouge, donc c'est un vautour. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire, mais je pense qu'on a tous deviné. Tonton Chris, qu'est-ce que tu en penses?
Ah bah oui, c'est le retour de Karrion Kross. Et alors là, voilà une bonne nouvelle, parce que je me demandais vraiment quand est-ce qu'il allait revenir, parce qu'il est blessé depuis un bail. Et vraiment, il a perdu son titre de manière, vraiment, c'était vraiment dommageable.
Mais il l'a pas perdu en fait.
Enfin, il l'a pas perdu, oui, en réalité. Mais et vraiment, pour moi, c'était ça s'annonçait comme un des monstres nés 2020. Et malheureusement, on ne l'aura vu que très très peu. Et donc, du coup, ce petit clip vidéo pour nous annoncer son retour, écoute, c'est plutôt une très bonne.
Mais ce qui est fou. Alors moi, vous allez me dire de suite. J'avoue en direct que j'ai pas trop suivi. NXT ces derniers temps.
Ah,
il est doublement blessé. Il y a un clip qui est passé où il a dit qu'il serait là mercredi, si j'ai bien compris. Ouais. Mais
il ne cache pas pour, depuis un bout de temps. Donc, même s'il est là, si c'est juste pour faire du micro, ça va finir par être compliqué, quoi.
Ouais, et puis apparemment, ça parle quand même très sévèrement de rendre le titre vacant. Hein.
Ouais.
Parce qu'il semblerait quand même que ça soit ces deux blessures là sont quand même sacrément importantes. Hein. Donc j'en ai même été surpris d'ailleurs de ce petit petit clip avec Finn Balor là. J'étais presque étonné. Donc effectivement, si c'est pour venir juste pour nous faire du micro, bon pourquoi pas, mais ou c'est peut-être tout simplement pour nous annoncer la vacance. Alors là, ça serait fou hein, parce que Finn Balor serait vraiment porté par la poisse. Hein, parce que là. Universal Championship, il a été obligé de le rendre vacant. S'il doit être rendre le titre NXT, voilà, où va-t-on, mes amis?
Et puis NXT, ça veut dire deux champions de suite qui rendent le titre
vacant.
Oui,
en plus.
Ouais, vraiment
en plus.
Ouais, mais ça serait drôle. Enfin, ça serait drôle. Non, mais ça serait le moment incroyable que Karrion Kross revienne là maintenant, quoi, du coup. Ce qui va arriver, probablement. Mais...
Ah ouais, là, ce qui va arriver, là, je pense que là Karrion Kross, il est rétabli. Hein, donc là, je pense que là, ça y est, c'est parti. Là, le destructeur est de retour.
Mais c'est dur pour NXT de construire quelque chose de cohérent, du coup, si tu perds tout le temps ta tête d'affiche, quoi.
Ouais, c'est bien d'accord.
Bon, après, c'est comme ça, c'est les aléas du catch. Par contre, papy, rassure-toi, je reviens, parce qu'il y a une valeur constante à NXT, et il est là ce soir.
Malheureusement.
Monsieur Takeover, Johnny Gargano, Johnny Wrestling, qui se retrouve face à Damien Priest, et face à l'étonnant et inattendu Léon Ruff, qui est le champion nord-américain de NXT, qui a battu Johnny Gargano, donc Tout ça s'est fait très récemment, hein. Il y a eu beaucoup de changements de titres entre ces trois hommes. Alors, le problème, c'est que Leon Ruff, c'est un tout petit gabarit qui virevolte dans tous les sens, mais personne ne le prend au sérieux. Dès le début du match, d'ailleurs, Damien Priest, il veut même pas l'attaquer, il lui dit juste, en gros, mets-toi sur le côté, regarde faire, parce que là, tu vas me déranger. Sauf que Leon Ruff, il l'envoie virevolter un peu Gargano, il lui donne une petite leçon de high-flying. Et puis, en fait, à force de fanfaronner, c'est les deux petits gabarits qui se retrouvent à travailler ensemble sur Damien Priest. Gargano qui fait un suicide dive sur Damien Priest dehors, et alors ce fourbe de Gargano, il encourage Leon Ruff à faire de même, sauf qu'au moment où Ruff se précipite, il le chope au passage. Ça c'est pas un beau comportement. Dehors, Damien Priest il chope Leon Ruff en lui disant mais qu'est-ce que tu fous là, il veut l'envoyer sur Gargano, et en fait il le fait tomber sur les barricades. Le champion va mal, le champion est cassé dans tous les sens, il y a 5 arbitres je pense qui sont là pour lui, qui le transportent à bout de bras, qui vont l'amener. Il nous fait un peu une petite Daniel Bryan, là il part à l'infirmerie. Gargano en profite pour placer un DDT sur Damien Priest et à reprendre un petit peu le dessus. Au milieu du ring, Gargano et Priest s'échangent une série de coups, les deux sont KO, et forcément au moment où les deux sont KO, le champion revient comme Daniel Bryan à WrestleMania 30. Bon, ça fait pas la même déchaînement de foule quand même, mais voilà, Leon Ruff revient dans le match. Il dropkick un petit peu les deux, il fait un Senton Bomb sur les deux à l'extérieur du ring. Léo Ruff il surclasse un petit peu Gargano, mais il n'arrive pas à placer un pin, il tente plusieurs nearfalls. Damien Priest va même casser certains de ses tombées, parce que le champion était très proche de conserver. Et Gargano réussit à coincer Damien Priest dans les cordes. Alors, ça, j'ai jamais trop compris, il lui coince les bras dans les cordes, même si l'autre, il pourrait se dégager, et il place son Gargano Escape sur... c'est un Gargano Escape ou je sais plus ce qu'il place sur Leo Ruff, sous les yeux de Damien Priest qui arrive à contrer, qui arrive à se dégager. Mais à ce moment-là, revoilà les... Alors, ils appellent ça les Ghostface. Revoilà les mecs déguisés en Scary Movie. Donc, ils sont 6 et ils se mettent à attaquer Damien Priest. Damien Priest, il se laisse pas faire. Hein, il va faire 2 suicide dive pour en neutraliser 6 à lui tout seul. Sauf qu'il finit quand même par se prendre un coup de barre de fer par l'un de ses Scream Masks, et Gargano n'a plus qu'à placer un DDT sur Leon Ruff et a gagné pour la 3e fois le NXT American Championship. Mr. Takeover est gagnant, et le fantôme, on va dire principal, celui qui l'a le plus aidé, finit par enlever sa capuche, et on découvre le visage de l'ancien disciple de Seth Rollins et ancien copain des Latinos. Il est partout cette année. Austin Theory est de retour. Eh ben, dis donc, est-ce que c'était ta théorie, tonton Chris ?
Bah écoute, c'était 17 minutes 30 hein, quand même, hein, ce petit match-là. Jusqu'à l'invasion des fantômes, j'ai envie de dire que c'était, ça me plaisait plutôt bien. Bon, moi, j'étais chaud pour la victoire de Damien Priest à fond. Hein, j'étais à fond. Et j'ai vraiment cru, hein, jusqu'à cette fameuse arrivée de fantômes. En fait, j'ai vraiment cru à sa victoire. Vraiment, pour moi, il m'apparaissait totalement dominant. Alors, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs toute son attitude au début du match face à Leon Ruff, en mode vas-y, laisse faire papa là, hein, ok. Et j'ai trouvé ça très bon. Bon, Gargamel, il a été égal à lui-même, hein, j'ai envie de dire. Donc, voilà, du Gargamel dans le texte, quoi. Hein. Je sais pas, ce gars, c'est. Quel emmerdeur. Mais. Voilà, après Leon Ruff, alors là, moi j'ai plein de réserves sur lui, hein. J'avoue que moi j'ai été l'un des premiers étonnés à le voir gagner le titre. Il botche beaucoup. Quand il fait son retour après voilà, sa fausse blessure, il fait 2 moves consécutifs qui botchent de suite, et au 3e move, il fait un dropkick sur Damien Priest qui est derrière les cordes, et il foire complètement le dropkick. Et heureusement, Damien Priest qui scelle à merveille, et j'avais même envie de lui dire bah, Damien, t'avais pas à te faire chier ça avec une prise aussi pourrie, t'aurais très bien pu te permettre de même pas faire de selling là-dessus. Mais bon, le Damien de prise professionnel jusqu'au bout des ongles. Et puis bah voilà, cette invasion de fantômes qui va coûter la victoire à Damien Priest, hein, puisque moi je le vois de cette manière-là, et qui va permettre à Johnny Gargano de récupérer pour la 3e fois, je crois, le North American Championship.
C'est ça.
Eh ben. Voilà, écoute, c'était pas mal, je peux pas dire, voilà, jusqu'à l'invasion de fantômes, je trouvais que c'était un très bon match, et à partir du moment de l'invasion de fantômes, j'ai trouvé ça tout de suite, j'ai trouvé que ça baissait d'un cran, quoi. Mais voilà, je crois que cette invasion de fantômes, elle était là de toute façon pour servir Gargamel et ça a réussi.
Gargamel a trouvé ses schtroumpfs. Alors papy, est-ce que tu vas appeler les Ghostbusters ?
Bah oui, alors je suis partagé, tu vois, parce que quelque part, Gargano a gagné, donc c'est toujours chiant. Mais d'un autre côté, c'est exactement ce que j'avais dit.
Bah oui !
Voilà, qu'il allait gagner grâce aux fantômes.
Cet homme avait raison.
Donc voilà, pour une fois que j'en trouve un nickel, je ne vais pas me calmer non plus, quoi. Bon, sinon, je suis assez d'accord, le match était pas mal jusqu'à l'intervention des fantômes. Moi qui me trouve beaucoup de choses négatives avec Gargano, je trouve qu'il est plus insupportable dans le bon sens du terme ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il est insupportable, mais volontairement, tu vois. Donc ça me va un peu plus. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a pas mal aidé Leon Ruff ce soir, parce que sinon, effectivement, il est vraiment très, très en dessous des deux autres, quoi. T'as même pris aucun souci. Gargano, je pense qu'il était en mode « j'aide mon petit copain à ne pas paraître trop mauvais ». Et encore, comme disait Tonton, ça se voyait quand même. Mais bon, à part ça, ouais, les fantômes, j'ai trouvé ça de trop. Les sept fantômes, quoi. Les sept fantômes, ça faisait beaucoup trop. Ça m'a fait un espèce de reflux gastrique là en me rappelant Retribution. J'ai dit tout est nain partout là, qu'est-ce que c'est que ce bordel, arrêtez ça, un seul fantôme ça aurait été très bien. Et puis c'est aussi, alors là par contre je suis très content que ce soit lui, parce que je suis content que ce soit un vrai catcheur qui soit derrière le masque et qui ouais. Puisse ouvrir d'autres opportunités derrière aussi. Non plus théorie en plus, il est reparti à NXT pour se relancer, donc et je le trouve vraiment pas mal dans le ring en plus, lui, même s'il a il est encore très green parfois, mais par contre, il a des moves vraiment impressionnants. Donc, content de le voir en plus avec Gargano, même si c'est Gargano, c'est comme un des mecs les plus expérimentés du roster NXT, quoi. Donc, c'est pas plus mal l'association. Et puis, le petit clin d'œil à Vince avec le it was me, Austin, all along, avec le petit jeu de mots entre Austin Theory et Steve Austin. J'ai trouvé ça plutôt drôle.
Bah, tant mieux papy, si finalement tu le digères pas trop mal ce troisième titre de Gargano. Mais oui, c'était un match qui ressemble un peu plus à un match qu'on peut avoir dans le main roster. Là, c'est un triple threat qui part un peu dans tous les sens avec un peu d'overbooking, le mec qui part, le petit champion un petit peu underdog qui se blesse, qui revient. Je trouvais que l'effet, enfin bon, c'est parce qu'il est très jeune et que je suis pas assez NXT, mais l'effet retour du gentil m'a pas trop embarqué, parce que moi j'étais comme Tonton Chris, j'étais à fond pour le grand beau gosse là, le Damien Priest. Mais et puis pareil, les 7 fantômes, ça faisait au moins 6 de trop, je pense. Alors c'est sûrement là aussi pour make Damien Priest look strong, puisqu'il les a quand même défoncés, hein. Il en a défoncé 6 sur 7. Mais c'est vrai qu'avec Retribution récemment, ça faisait un peu répétition tout ça. En plus, j'ai trouvé ça un peu con que Damien Priest, il les domine, il essaye pas, enfin, c'est toujours pareil, mais il essaye pas du tout d'en démasquer au moins un pour voir qui c'est. Parce que bon, ça fait des semaines qu'on se demande, ah, oh, mais qui c'est? Et puis là, il leur pète tous la gueule, il veut pas savoir qui c'est. Mais bon. Globalement, quand même, le match était divertissant. Et puis le bon, ben voilà, Gargano, il écrit un peu plus sa légende à NXT, donc c'est sa place, pourquoi pas. Grosse
la question, c'est est-ce que Gargano un jour montera dans le main roster, et moi en fait j'ai une théorie là-dessus, c'est le cas de le dire, puisque moi je pense que Gargano en fait il n'y arrivera pas dans le main roster. Gargano, pour moi, pour qu'il arrive dans le main roster, il y a qu'une seule solution, c'est qu'il monte avec sa femme. Et il faut qu'ils rentrent à fond dans leur gimmick power couple, parce que c'est bizarre, hein, mais pour moi, Gargano, il n'a aucun avenir dans le main roster. Alors là, je pense que je vais faire hurler tout un tas de suiveurs et de discordeurs de catch-up, mais pour moi, c'est marrant, hein, ce type. Je n'arrive pas à lui voir un avenir dans le main roster.
Mais en plus, power couple avec Candice LeRae, enfin, ça sera quoi, un power couple de nain, quoi. Je vois pas comment tu veux être power couple avec ces deux-là, quoi. Mais par contre, effectivement, moi, je pense qu'ils ont bien plus intérêt à rester dans le roster NXT, où ils sont limite des gens qui vont coacher la nouvelle génération, puis les faire amener tous au main event d'NXT, et voilà, les encadrer, que monter dans le main roster, où ça va faire un truc comme, je sais pas moi, comme Fandango, ou Breeze, ou le Perfect Ten, enfin tous ces gars-là qui étaient des bons cadres de NXT, mais qui doivent monter dans le main roster, ça fait flop parce qu'ils n'ont pas le style qu'il faut pour s'imposer en main roster. Peut-être qu'ils y arriveront parce qu'ils croient qu'ils ont que la trentaine, ces gens-là. Donc, ils ne sont pas non plus totalement vieux. Hein. Ils ont encore 10-15 ans de cash largement pour eux. Mais c'est vrai que je ne leur vois pas vraiment d'avenir dans le main roster non plus.
Je suis peut-être moins sévère que vous parce que même s'il y a ce doute, hein, on a bien vu ce qui s'est passé pour ceux que tu viens de citer, papy. Power, c'est peut-être un mot un peu exagéré, mais en tout cas pour un couple un peu tordu, un peu vicieux, je crois que ce qui peut sauver Gargano, je pense qu'il faudra le tenter un jour parce que bon, NXT dans 2-3 ans, s'il y a encore, ça va peut-être un peu tourner en rond, mais je pense qu'il faut vraiment le monter dans cette gimmick là parce que les petits, c'est comme ça qu'ils peuvent réussir, hein. C'est comme ça qu'a commencé Daniel Bryan d'ailleurs, en étant un petit vicieux tordu, un petit peu fourbe là qui cache son Money in the Bank un peu comme ça, parce que le personnage qu'ils avaient essayé de lancer, c'était un peu le Gargano un peu façon ricochet là, c'est-à-dire un petit catcher brave. Ça marche pas là, les petits jeunes à petits physiques qui sont braves, qui sont méritants, qui sont vaillants, on le voit avec Chad Gable ou Ricochet ou tout ça, ça tient pas. Par contre, le côté heel un peu tordu, un peu petit rat là qui arrive d'une manière ou d'une autre à passer entre les gouttes, ma foi, peut-être que ça a un avenir un jour, mais bon, c'est vrai qu'il ne sera jamais aussi bon qu'à NXT, je pense, et il est au sommet de sa carrière à NXT, ouais. Mais est-ce qu'on n'aura pas une petite frustration si... De toute façon, il peut pas faire 10-15 ans de catch, comme dit Papy, à NXT, quand même, au bout d'un moment, il faudra faire autre chose.
Ah, je crois qu'il y a déjà une certaine lassitude, quand même, de la part du public, quoi. Il est redescendu dans la carte petit à petit. Alors effectivement, on dit ça, et puis d'un autre côté, il chope son troisième titre de North American Champion, mais c'est vrai que moi, je sais pas, je suis quand même assez surpris. Alors est-ce que ce gars-là, finalement, il n'a pas envie, peut-être qu'il a ce gars-là n'a pas envie particulièrement de monter dans le main roster, et peut-être qu'il se dirige vers une carrière d'entraîneur ou de booker, puisque je sais qu'il fait déjà de la production hein, dans les coulisses. Hein. Il y a à plusieurs occasions, hein, il a été relevé qu'il avait booké des matchs dans des weekly, etc. Donc, je pense que c'est un gars qui s'intéresse à ce qui se passe backstage aussi.
Donc, il y a peut-être venir là-dedans, effectivement. Hein, cadrer des jeunes sur le truc et puis faire les coulisses, travailler là-dedans. C'est peut-être c'est une porte de sortie pour lui. Parce qu'effectivement, 10-15 ans comme ça, bah après, il peut faire le coup du Ziggler de NXT, hein, c'est-à-dire qu'il va accueillir tous les nouveaux, faire
des rivalités.
De temps en temps, il fera une. De temps en temps, il fera une rivalité dans le main event. Mais bon.
Ça nous emballe pas.
Non. Bah d'ailleurs, ça a tellement pas emballé Raphaël qu'il s'est barré. Alors voilà.
Ah, je vous avais perdu momentanément.
Bah, on est toujours là, t'inquiète. On était toujours en train de disserter sur le cas Gargano.
Oui, mais il y a eu des bruits qui courent aussi sur Ciampa qui, paraît-il, aurait dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, qu'il ne voulait pas monter non plus. Bon, c'est sûr que il y a beaucoup de talent à la WWE, et puis voilà, quoi, c'est un peu bouché tout ça, mais c'est bouché à NXT. Enfin, il y a déjà du monde à NXT, mais il y a du monde au-dessus, quoi. C'est sûr que c'est pas facile d'envisager la montée. Hein. Est-ce que vous êtes chaud pour le main event, les amis?
C'est parti.
Non. Non. Bon, papy, garde un petit peu tes critiques. Je vais refaire une bonne session de description et après je te laisse la parole, d'accord?
Et prends ton souffle.
Allez. Donc, War Games masculin entre le Disputed Era, qui sont des grands habitués de ce type de match, contre.
Ah bah,
ouais, c'est ils en ont fait 4.
Plus, que, plus qu'habitués, puisqu'ils ont, il y en a eu 4, ils ont fait les 4. Donc.
Ah ouais, et ils ont ils en avaient là ils sont à deux défaites et une victoire hein, je crois hein, non avant ce match
ouais c'est ça ouais
mm-hmm. Donc il faut qu'ils gagnent pour égaliser, mais ils affrontent donc l'équipe qui s'appelle For the Brand avec les champions tag team de NXT Danny Burch et Oney Lorcan, le retour du Bruiserweight donc Pete Dunne et puis Pat McAfee le joueur de NFL là. Donc, alors ça commence avec Kelly O'Reilly contre Pete Dunne. Là, on est dans du catch anglais au sol, soumission. Là aussi, on est dans du catch de spécialiste. Pete Dunne qui pète un petit peu les doigts de Kelly O'Reilly puisqu'il sait faire quasiment que ça, mais O'Reilly réussit à placer une petite clé de cou qui est contrée par Pete Dunne. Ça se tord un petit peu dans tous les sens au sol. Les méchants ont un coup d'avance. Donc, Oney Lorcan arrive. Il envoie O'Reilly en souplesse. Pete Dunne place la soumission du prise de surf là pendant que Oney Lorcan le tape un petit peu. Bref, donc les deux contre un forcément se mettent à dominer et les deux se mettent à soumettre O'Reilly, le tord dans tous les sens à deux. Bobby Fish arrive pour sauver son copain de tag team. Il commence très fort, alors il envoie un petit peu tout. Hein, il suplexe Pete Dunne sur Oney Lorcan, il fait un spinebuster sur Oney Lorcan. Ils se mettent à deux, donc l'Undisputed Era reprend un petit peu les dessus, mais Danny Burch arrive et il apporte un sac, un drôle de sac, qui contient deux battes de cricket. Voilà, c'est un sport que personne ne connaît, sauf les Anglais, mais c'est pas grave. Donc ils utilisent des battes de cricket sur l'Undisputed Era. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, ça tape un petit peu avec les battes, voilà, sur Bobby Fish et Kelly O'Reilly. Roderick Strong arrive. Alors pareil, encore plus fort, Roderick Strong, voilà, tornade, il envoie les trois méchants, il les tabasse. Alors il les coince entre les deux rings sur cette partie métallique, là, il les envoie en courant, en faisant des allers-retours, il envoie des séries de slams, de strikes, de kicks, de baffes et tout ce qu'on veut. Mais les méchants finissent par reprendre le dessus, et Pat McAfee arrive. Alors avant d'arriver, Pat McAfee, il sort, lui aussi il passe par le dessous du ring, et il va mettre sur le ring, il sort quatre tables, qui portent chacune le logo de l'Undisputed Era et chacune le nom. Donc il y a, voilà, en gros, voilà, il y a la table prévue pour Bobby Fish, la table pour Roderick Strong, etc. Et le premier à y passer, justement, c'est Roderick Strong. Donc il est coincé sur la table par les membres du For the Brand. Et McAfee lui fait un moonsault depuis le turnbuckle. Donc là, c'est réussi, hein, belle réussite de l'équipe des méchants. Et Michael Cole débarque. Alors, quand Michael Cole débarque, il est un peu tout seul face aux quatre méchants qui l'invectivent.
Adam Cole.
Pff, que je...
Oh là là, Michael Cole croit qu'il aurait quelques problèmes dans un match de War Games.
Effectivement. Tu vois, mais oui, bien sûr, Adam Cole, baby. Tiens, d'ailleurs, très étonnant, il n'a pas fait là ce soir. L'absence de public, peut-être pas eu de Adam Cole, baby. Donc, bref. Les quatre méchants essayent de l'empêcher de rentrer dans la cage, mais pas de problème, il se baisse un petit peu sous le ring, il chope l'extincteur et il leur envoie la lacrymo dans la tronche, ce qui est beaucoup plus facile ensuite pour rentrer sur le ring. Il a pris une chaise, il tabasse tout le monde, il détruit les trois. Il fait un petit face-à-face, œil pour œil avec McAfee en lui disant allez, maintenant, allez, c'est nous les chefs, on s'y met. Mais Pete Dunne va sauver son leader. D'ailleurs, Pete Dunne, c'est un peu sa gimmick de la soirée, hein, de sauver ses copains et surtout de sauver McAfee, j'ai trouvé. Bon, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de prises. Je ne vais pas toutes les dire. Hein, Wargames, il vaut mieux les regarder. Mais surtout, à un moment, là, ils se mettent à 4 à se tabasser les 4 contre 4. McAfee, à un moment, il essaye de faire son figure 4. Enfin, il essaye de voler un petit peu la prise de Ric Flair. Il fait une figure 4 sur Adam Cole. Un peu plus tard, il va aussi se prendre pour Ric Flair en envoyant un low blow à Adam Cole. Mais Adam Cole s'en relèvera. Les tables. Je vais quand même parler des tables qui avaient été prévues. Elles n'ont pas du tout servi à ce qui était prévu, hein, puisque c'est l'Undisputed Era qui envoie Pete Dunne sur la table où était Danny Burch, mais la table c'est même pas brisée. Donc ensuite, c'est Roderick Strong qui fait un splat sur les deux en même temps. Adam Cole envoie McAfee traverser la troisième table. Et donc, il y a un moment où l'Undisputed Era, ils sont les quatre debout et dominants. Ils ont envoyé tout le monde... dans ce fameux coin entre les cordes et la cage, donc ils ont pris le dessus. Il y a des near falls à 2,999 quand Pete Dunne essaye de sauver ses copains. Et puis au final, Adam Cole place son finisher sur McAfee, son Panama Sunrise, mais ça fait là aussi near fall. Adam Cole s'élance pour donner un coup de genou, c'est Danny Lorcan qui se sacrifie, qui prend le shot pour sauver son chef, sauf que ça suffira pas, puisque Bobby Fish, Roderick Strong et Kelly O'Reilly se surpassent pour détruire Danny Burch, et c'est Kelly O'Reilly, le premier à être rentré, qui d'un coup de coude à l'aide d'une chaise, d'une descente du coude, place le pin victorieux sur Danny Burch. Undisputed Era a gagné 2-2, donc c'était un gros match, mais est-ce que c'était un bon match? Papy, à toi la main.
Reprends ton souffle, merci pour ce descriptif qui m'a rappelé aussi plein de moments où je me suis arraché les cheveux en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» c'est marrant parce qu'en fait, il y avait des moments où c'était pas mal. Tous les moments où c'était Pete Dunne, où c'était Kyle O'Reilly qui est sur la gueule. tout ça. Et puis, il y a des moments, ils se mettaient tous en pause, ils se foutaient dans un coin, ils se roulaient sur le côté. Et puis, alors là, c'était le festival Patakafi, où c'était du 2 à l'heure, c'était du pas beau. J'ai plein de moments où je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le moment où Adam Cole rentre dans le ring avec tous les cons qui l'attendent devant la porte, alors qu'ils voient qu'ils ont un extracteur et puis qu'ils se prennent l'extracteur dans la gueule, alors qu'il a quand même mis trois plombes à le sortir de tout le ring. Hein. Mais non, il regarde, il dit, qu'est-ce que c'est? Ah, tiens, c'est quoi ce truc rouge avec un espèce de tuyau qui sort du truc rouge? Ah, mais ça fait de la fumée. Ah, bah non, c'est pris dans la tête. Ben voilà quoi. Ensuite, Oni Lorcan qui. À un moment, c'est drôle. Il est sur le ring A, on va dire. T'as Adam Cole et McAfee sur le ring B, en train de se battre à deux. Et il peut pas intervenir parce qu'il est censé remplacer McAfee sur le finish d'Adam Cole. Alors du coup, il rampe tout du long. On le voit ramper derrière l'image. Hop, il se retrouve de l'autre côté du ring sans avoir jamais essayé d'intervenir. Alors qu'il y a eu plusieurs finishes tout ça. Et puis d'un coup, là, il se dit, ah, ça y est, je vais faire mon remplacement. Et pas, enfin voilà, c'était trop en fait. Le problème, c'est qu'ils essayaient en fait de compenser l'histoire autour de McAfee qu'on voyait beaucoup trop, qui était beaucoup trop présent. Et du coup, bah, ça désynchronisait totalement le match. Ça faisait à chaque fois des cassures de rythme. Et au final, on se retrouve avec une victoire de Kyle O'Reilly, qui est vraiment en fait le number one, je trouve, de l'Undisputed Era depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, c'est lui qui avait eu le match contre Finn Balor l'autre fois. Et là, c'est lui qui entre en premier, c'est lui qui a tous les combats marquants avec Pete Dunne, bah, c'est lui, et c'est lui qui fait le finish. Donc, c'est lui vraiment la grosse star en ce moment de l'Undisputed Era. Adam Cole, par contre, c'est vraiment très en retrait, je trouve. Enfin, franchement, le rythme était pourri, en fait. Voilà, je sais pas comment dire ça mieux.
Eh ben, tonton Chris, est-ce que tu veux essayer de dire ça mieux ou est-ce que tu n'es pas du même avis?
Bah, non, globalement, je suis. Plutôt raccord avec mon papy favori, quoi, parce que moi aussi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cassures de rythme, comme tu l'as dit si bien. Moi, vraiment, Pat McAfee, alors là, s'il y a un mec à qui j'adhère pas, c'est bien lui, quoi. Donc je le trouve mauvais dans le ring. Alors effectivement, hormis ce passage avec ce saut du turnbuckle là qui réussit pas mal, mon dieu, qu'est-ce qu'il peut botcher, qu'est-ce qu'il est chiant, Bah vraiment, ce mec ne m'intéresse pas, quoi. Je suis vraiment étonné. Apparemment, c'est vraiment sa carrière de NFL qui a l'air de parler pour lui et qui lui donne autant de crédit auprès de la WWE, son podcast aussi, j'imagine. Mais vraiment, Pat McAfee, moi, je ne comprends pas, quoi. Alors qu'il soit, il aurait été dans un rôle de manager. Voilà, j'accompagne des catcheurs, je crée un clan, je les envoie au combat, un peu comme fait MVP avec le Hurt Business. J'aurais pu comprendre, mais le voir catcher, bah, pour moi, c'est non. Quoi. Pat McAfee, c'est non. Adam Cole, vachement en retrait, ouais. Pour moi, de toute façon, le MVP de l'Undisputed Era, c'est clairement Kyle O'Reilly. Et de l'autre côté, le MVP du clan McAfee, c'est clairement Pete Dunne.
Clairement, oui.
Pete Dunne est incroyable. Alors, il avait sorti déjà un match il y a deux semaines totalement incroyable pour celui qui gagnait l'avantage, justement pour ce War Games. Et il a confirmé dans ce match, quoi. Vraiment, il sort un match, Pete Dunne, mais toute la première partie, les cinq premières minutes, parce que le match a duré 45 minutes, hein, et les cinq premières minutes, juste avec Pete Dunne et O'Reilly, moi, juste ça m'aurait suffi déjà. Les cinq premières minutes ont été magnifiques. Après, tout ce truc-là autour d'Adam Cole et de Pat McAfee, bah, moi, ça n'a pas bien collé, quoi. Et je me suis un peu ennuyé dans ce match, en fait. Pourtant, il y avait de l'action, mais il y avait des moments. Alors, il y avait des fameuses siestes chères à IRM. On en a eu droit à quelques-unes, et c'est chiant, hein. Des siestes dans un wargame, c'est chiant, je trouve. Parce que quand on est dans un Rumble ou dans une Battle Royale, enfin, quand on est dans un match à plusieurs, le mec qui glisse ringside et puis qui s'absente un peu pendant quelques instants ou quelques minutes, ça va. Mais dans un Wargames, un mec qui fait la sieste dans un coin de turnbuckle, ça se voit à l'écran. Et moi, je trouve que visuellement, bah, ça gâche un peu. En tout cas, pour moi, c'est loin, loin, loin d'être le meilleur match sur les quatre des Undisputed Era dans les Wargames.
Oh, c'est le pire. Hein. C'est... je pense qu'il n'y a pas photo pour moi.
Ah bah écoutez, je vous trouve, vous êtes unanime en tout cas. Moi je suis beaucoup moins sévère. J'ai bien aimé ce match. Alors je partage totalement votre avis sur Pat McAfee, que je trouve déjà pas intéressant au micro là, c'est les semaines, ce que j'ai vu un peu NXT et je comprenais pas trop la hype aussi autour du gars, mais pour moi, ils ont réussi à mon échelle personnelle à m'embarquer dans l'histoire et à oublier un petit peu tout ça, même si c'est vrai que on peut pas cacher qu'ils l'ont tout fait pour le protéger, il a quasiment pas fait de coups, il a quasiment pas pris de coups. C'est vrai qu'il y avait des trucs dans le rythme un petit peu bizarres, ben notamment McAfee, à un moment, il monte là sur la cage, il saute sur tout le monde, et puis après, on sait pas trop dans quel ordre ils se réveillent les uns les autres, c'était un petit peu bizarre. Mais moi, j'ai réussi à être accroché dans le truc. Kelly O'Reilly et Pete Dunne m'ont énormément plu. Alors, je sais pas si vous partagez mon avis, je vous ai pas trop écouté sur les dernières analyses d'NXT. J'ai l'impression que Pete Dunne, il est dans son équipe juste pour trahir à un moment donné, pour faire un face turn.
Ouais. Moi, je suis bien d'accord, ouais.
Et pour leur péter la gueule à tous, parce qu'il est largement au-dessus de tous. Et puis pour moi, ce qui sauve le match, c'est quand même le résultat, parce que c'est vrai que l'Undisputed Era avait gagné leur tout premier Wargames, et depuis, ils avaient plutôt pris cette position justement de ceux qui jobaient un peu pour les, entre guillemets, les petits nouveaux. Et là, j'avais peur avec ce Pat McAfee là, qui a l'air d'être une star que la WWE veut mettre en avant. J'avais très peur de les voir gagner, alors qu'en plus, voilà, en 4 contre 4 avec un qui est non catcher, ça m'aurait fait peur. Et quand Pat McAfee s'est relevé du finisher de Michael Cole, je me suis dit, c'est pas possible, ils vont les faire gagner. Et puis non, je suis content qu'on finisse sur l'Undisputed Era, le dernier show de l'année à NXT, le dernier takeover. Voilà, les mecs, ils sont là, ils sont 4. Bon, c'est vrai qu'Adam Cole a été moins présent, mais je trouve que les autres, ils ont quand même bien envoyé. Roderick Strong, il fait aussi des grosses paires physiques. Donc ça, on va dire que la victoire finale sauf pour moi, enfin, fait basculer le match dans un bon souvenir quand même.
Ça a entériné aussi définitivement le passage, le face turn des Undisputed Era qui avait commencé finalement avec Kyle O'Reilly. Avait été, puisque tu dis que tu voyais pas, t'as pas vu trop de weekly ces dernières semaines, et il s'avère que Kyle O'Reilly nous a été vendu comme un babyface sur ces dernières semaines, et bah, je constate qu'avec l'aspiration, il a embarqué toute l'équipe et que du coup les Undisputed Era redeviennent face.
Oui, c'est un nouveau leader.
Un nouveau leader, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Kyle O'Reilly qui est clairement le leader depuis quelques semaines, je trouve. Hein.
Alors, c'est toujours
le leader in-ring, c'est Kyle O'Reilly. Hein.
Ah, ça, ouais. Ah, bah, in-ring, ouais, celui qui sort la perf, c'est Kyle O'Reilly. Hein. Il n'y a pas photo, hein, de toute façon. Hein.
C'est le gros worker de l'équipe, c'est sûr. Bon, ben alors, on avait la question pour Gargano, ouais. Mais c'est qu'est-ce que vous en pensez là de l'Undisputed Era? Qu'est-ce qui peut leur rester à faire là?
Exactement finalement la même réflexion qu'avec Gargano, quoi. Comment ils vont faire pour faire monter l'Undisputed Era dans le main roster? Est-ce qu'ils vont les exploser et puis que les mecs vont y aller seuls, genre Adam Cole, parce que je pense qu'Adam Cole a largement les faveurs des officiels. Moi, ça, je peux pas dire que ça, c'est un truc qui m'emballe des masses. Mais moi, je me demande vraiment. Enfin, si vous avez une solution à me proposer, je la veux bien parce que moi, j'ai vraiment du mal à imaginer l'Undisputed Era dans le main roster.
Moi, je pense la même chose que toi. Mais vas-y, je te laisse, Raphaël.
Ouais, moi, pour le coup, je suis. Alors, je sais plus lequel de nos amis sur Discord disait une phrase qui était il gaspille l'Undisputed Era, c'est il faut vraiment pas aimer le catch. Alors, bon, malheureusement, on a déjà des précédents, encore une fois.
Ah oui.
Mais moi, je pense qu'il faut tenter le coup quand même et les envoyer à 4. Alors, la situation avec le titre NXT fait qu'on peut peut-être garder l'Undisputed Era encore quelques temps. Hein. Pourquoi pas renvoyer Kelly O'Reilly ou Adam Cole face à Karrion Kross, par exemple. On n'a pas eu ça, hein, ce type de configuration.
On a eu Kyle O'Reilly a eu un title shot face à Finn Balor.
Ouais, mais pas contre Karrion Kross avec tout ça.
Ah non, non.
Non, donc ça pourrait être des feux avec le côté un peu TikTok là, de Karrion Kross qui veut détruire un peu tous les piliers de NXT. Bah, là, ça pourrait servir de chair à canon pour ce gars-là avant de les monter. Eh ben moi je suis tout à fait. Moi j'ai une solution, hein. Il faut qu'on découvre finalement que Retribution n'a été créé que pour servir à permettre la montée de l'Undisputed Era et que les quatre détruisent un petit peu ces gangs masqués là et qu'ils arrivent dans le main roster, mais après.
Ah ça veut dire que tu les balances dans la low card alors?
Oh bah pour commencer, après c'est de toute façon quand tu balances des mecs qui arrivent de NXT direct en main event, ça marche pas. On a vu avec Finn Balor et tout ça, tu vois, même Keith Lee, c'est un peu délicat. Moi je les garderai groupés à 4. Il y a le Hot Business qui est là aussi, hein. Ça peut faire une belle feud, ça. Et par contre, après, c'est toujours pareil, quoi. Il y a beaucoup de monde déjà à Raw, il y a déjà beaucoup de monde à SmackDown. Je sais pas comment leur trouver un créneau, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a une attente quand même. Alors, les fans d'NXT sont pas les fans du main roster, mais bon, moi, je pense que post-Rumble ou alors post-WrestleMania, il va falloir les faire monter. Mais moi, je suis plutôt, enfin, le fait qu'ils soient en équipe, par exemple, qu'il y ait une tag team avec Kelly O'Reilly et Bobby Fish me fait beaucoup moins peur que la potentialité de Gargano tout seul en solo, quoi.
Ouais, alors moi, je suis un peu entre les deux. Mais en fait, je suis plus team tonton quand même, en disant que je suis pas sûr qu'ils aient un grand avenir dans le main roster, hormis, comme tu l'as dit, en étant dans la low card. Et je suis pas sûr qu'ils seraient capables d'en sortir. Par contre, quand je vois ce que donne l'Indisputed Era version face de ces dernières semaines, je pense que le gars qui ferait montrer, c'est Kyle O'Reilly, quitte à laisser Strong et Fish en tag team, peut-être NXT ou peut-être dans le main roster, j'en sais rien. Après, tous les tag teams dans le main roster, il y a de la place, même si de toute façon, ils n'en feront rien. Mais peut-être avoir Adam Cole d'un côté et Kyle O'Reilly de l'autre. Éventuellement, c'est peut-être les deux gars, l'un avec son, on va dire, son charisme et l'autre avec son catch ultra stiff, qui pourrait tenter quelque chose, mais je ne suis vraiment pas sûr du tout, quoi. Il y a encore un gros problème de physique, hein. Alors, Kyle O'Reilly, ça le fait un peu moins parce qu'il est vraiment... Il a vraiment un cache stiff qui fait que tu oublies finalement sa taille. Mais alors, Adam Cole, vraiment petit et fin, en fait. C'est ça le souci. C'est le même souci que Gargano. C'est, tu vois, t'en as des petits, mais qui sont vraiment... Enfin, Daniel Bryan, il est trapu, quoi. Tu vois, c'est comme de la bonne bête. Daniel Bryan, il t'attrape dans ses bras, tu fais pas le malin. Adam Cole... il nage dans son t-shirt, quoi.
Mais ouais, donc, Adam Cole, c'est quand même un de ses gros problèmes, hein. Alors moi, encore une fois, je sais qu'il y a des millions and millions de fans d'Adam Cole, mais Adam Cole, ça reste une crevette, quoi. Il fait peur à personne. Mais moi, il m'a jamais fait peur. Et je veux dire, moi, ce que j'aime, un catcheur, c'est qu'il me fasse peur. Et avec Adam Cole, moi, je l'appelle souvent la symbiose de Shawn Michaels et de Frank Dubosc. Mais vraiment, clairement, pour moi, physiquement, il n'y est pas, quoi. Il n'y est pas du tout. Et pourtant, je reconnais que c'est un bon catcheur, que pareil, voilà encore un gars qui a un moveset, qui a une vraie présence, quoi. Je remets pas en cause toute sa présence à Adam Cole, mais pour moi, voilà, ce gars, il faut qu'il prenne 10 kilos, il faut qu'il arrive à faire peur un jour.
Bon, est-ce que Rey Mysterio te fait peur, tonton Chris?
Non, mais Rey Mysterio, c'est le gentil par excellence. Je veux dire, Rey Mysterio, c'est là, t'es dans un top babyface tellement absolu. Ouais. C'est un autre background, c'est un luchador, il est masqué. Il y a beaucoup de choses de Rey Mysterio. Et puis Rey Mysterio, moi j'ai envie d'utiliser un peu le terme utilisé par Papy, c'est Rey Mysterio, c'est un trapu quand même. Hein.
C'est vrai.
C'est Rey Mysterio, tu regardes, il a des bons trapèzes, il a une bonne cage thoracique. Adam Cole, c'est le voisin d'à côté, quoi, Adam Cole, quoi, avec les cheveux longs.
Ouais, bah celui-là, je pense qu'il a ne serait-ce que la moitié de la carrière de Shawn Michaels et de Frank Dubosc, il sera content, mais...
Il est plus près de Frank Dubosc que de Shawn Michaels, hein,
bon, les amis, ça, c'est pure spéculation. En tout cas, War Games, ils ont gagné la guerre, les Undisputed Era. Ouais. Et par contre, visiblement, la qualité du match est plus disputée. En tout cas, nous ne sommes visiblement pas tous tout à fait d'accord entre nous. Ben, on va
laisser comme quoi, encore une fois, Catch-Up fait un peu la polémique, parce que globalement, encore un match qui a été... la presse est unanime, quoi, à dire que c'est un match formidable, etc., etc. Il a été noté quasiment à 9 sur 10. Enfin bon, un truc de fou, hein, l'impact de ce main event, quoi. Qui n'aurait pas dû être le main event?
Ah voilà. Bah écoute, puisque tu as la parole, tonton Chris, je te laisse nous donner pour cette soirée ton mot de la fin, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Bah ça va être facile, parce que ça va être une espèce de combinaison, c'est-à-dire que je vais donner mon top au War Games féminin. C'était l'opener, malheureusement, mais moi ça a été 35 minutes de kiff. Voilà, moi vraiment il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu un moment de répit. J'ai trouvé les quatre filles. Et pourtant, Dakota Kai et Toni Storm sont, par exemple, deux catcheuses que j'apprécie pas spécialement. Moi, je trouve que Raquel Gonzalez est en train d'exploser de plus en plus. Elle a un vrai physique. Du côté des faces, bon, bah, Ember Moon, pareil. Encore une fois, j'ai déjà signalé. J'aimerais bien qu'elle perde quelques kilos. Chelsea Blackheart est un petit peu, je trouve, un peu sans saveur, malgré tout son look et tout. Je trouve qu'elle manque un peu d'épaisseur, Chelsea Blackheart. Mais voilà, mais tout ça mis ensemble, tout ce package là, moi j'ai adoré ce match. Vraiment, vraiment, sans aucun problème, mon match préféré de la soirée. Et mon flop, eh ben, ça va être au fait que les filles aient eu droit qu'à l'opener. J'ai trouvé ça scandaleux. Voilà. Je suis féministe. Je voulais que les femmes aient ce main event parce que les Undisputed Era, bon, bah, ça va, quoi. Quatrième War Games, quatrième fois avec les Undisputed Era dans le main event. Je pense que, franchement, on aurait pu dire, bon, bah, allez, là, on va inverser sur ce coup-là. Je pense que ça n'aurait pas choqué grand monde que l'opener commence avec les garçons. Et je pense que ça aurait été une belle exposition pour les filles d'avoir le main event de Stakeover. Surtout quand tu as une équipe face qui est quasiment une équipe all-star, en mettant Black Heart de côté. Mais là, tu avais une équipe all-star. Et ben, vraiment, j'étais déçu pour les filles, quoi. Donc, j'étais déçu qu'elles n'aient pas droit au main event. Je trouve que là, il y a eu une petite faute de goût. Voilà, et ce takeover pour moi n'est loin d'être l'un des meilleurs takeovers de l'histoire, mais très loin même. Et encore une fois, je suis assez étonné de toutes les notes que j'ai lues depuis le début, donc je vais aller pas du tout dans le sens du courant, et moi je vais quand même mettre une note pas mal, parce qu'il y avait quand même 5 matchs de 13 minutes minimum, voilà, avec des gros gros matchs des War Games, donc on a eu du catch, on a eu quand même des choses. C'était intéressant, je peux pas dire que je me suis ennuyé ou quoi que ce soit, mais j'ai eu des takeovers qui m'ont vachement plus emballé que ça, et donc je vais lui mettre un 3.
3 pour Chris. Papy, qu'est-ce que tu en dis, toi?
Alors, qu'est-ce que j'en dis? Je suis d'accord sur le positionnement de l'opener et du main event, mais du coup je vais le faire à l'envers. Moi, je vais lui mettre mon flop au main event, du coup, au garçon, au wargame garçon. Non seulement pour sa position en tant que main event, mais aussi pour la qualité du wargame, qui pour moi était le pire de tous les matchs wargame qu'on a pu assister depuis l'origine, en tout cas, enfin depuis leur retour sur NXT. Pour mon top, je pourrais le donner aux filles aussi, mais allez, je vais essayer de varier un peu. Je vais le donner du coup à Ciampa versus Thatcher. Ça me rappelle Margaret, et puis c'est des bons moments que nous avons passés dans notre jeunesse. des moments fins et romantiques.
La libéralisation économique, la guerre des Malouines, que des bons souvenirs. C'est vraiment sympa.
Et ma note, et j'ai envie de dire que Wargame, c'était pas ma guerre. Et donc, du coup, pour moi, c'est le pire Wargame de l'histoire d'NXT, et donc du coup je lui ai donné la moyenne parce que c'était pas non plus une horreur, mais je donne qu'à 2,5, voilà, parce que j'ai quand même plein de choses qui m'ont pas qui m'allaient pas. Le main event m'allait pas, les fantômes de partout ça m'allait pas, le match trap était pas si mal, mais c'était un match où j'ai commencé le match en disant je m'en fous déjà, donc voilà, c'était compliqué quand même. L'affiche était pas terrible, hein. Il y avait pas de champion du monde.
Ouais.
Masculin,
ouais.
La féminine est dans le wargame, pas de tag team. C'était pas forcément la plus belle affiche, pas le bon ordre des matchs, et en plus le main event est raté. Donc ça fait beaucoup. Je mets la moyenne dessus quand même. C'est quand même pas catastrophique, mais voilà, ça mérite pas plus pour moi.
Et ils avaient collé le champion cruiserweight dans le pré-show au passage, parce que quand même, faudrait pas. Il y a eu un 3 contre 3 dans le pré-show, quoi, avec la Lega del Fantasma. Qui a battu Adonis et puis je sais plus qui là, deux no name là, je me souviens plus. Et on n'a pas parlé du pré-show du coup, donc j'en profitais pour le glisser vite fait.
Très bien, merci pour cette information complémentaire, Chris. Ben moi je vais aller dans le sens du courant, du coup je vais être un peu plus mainstream, désolé les amis, je passe pas souvent sur NXT, alors voilà, moi je suis plus mainstream. Moi je trouve que le choix du main event se comprend tout à fait par la logique des victoires. J'aurais été tout à fait d'accord avec vous pour un main event féminin si on avait eu la team Yoshirai qui gagne. Là pour Raquel Gonzalez et ses copines, je trouve que c'était un peu léger comme image finale de ce pay-per-view, mais sur le combat, elle le méritait tout à fait. Je vais mettre... Je vais mettre mon top. J'aurais bien aimé mon top à Aurélie et Pete Dunne, tous les deux, parce que mine de rien, ils ont fait 45 minutes de match, et on peut pas dire que ça soit ceux qui ont le plus roupillé. Donc, belle paire pour les deux Britanniques, on peut dire ça, c'est ça? Écossais, anglais? Il est quoi,
non, Aurélie? Aurélie, il est américain en fait, mais il est irlandais d'origine, ouais.
Ouais, voilà, c'est comme dans Lucky Luke, là, quand ceux qui se disputent avec.
Ouais, voilà. Ouais.
Les Irlandais, les Écossais. Mais.
Et Pete Dunne, c'est un roast beef, quoi.
Ouais, Pete Dunne, c'est un vrai bon roast beef, même s'il a un peu changé de gueule, mais un roast beef, ça se reconnaît de loin. Donc, ils méritent tous les deux un petit top partagé. Ouais, le flop, moi, je vais le mettre aux fantômes, là, qui nous ont trop rappelé le Retribution et tout ça. Il aurait plus manqué que les lumières s'éteignent, mais bon, ça commence à faire beaucoup. Ou les ninjas, d'ailleurs. Tiens, peut-être un jour, on va avoir les ninjas, les fantômes et les Retribution dans le même panier. Il n'y aura plus qu'à jeter de l'essence et une allumette et tout ira bien. Mais par contre, moi, j'ai bien aimé le show quand même, globalement. Je trouve les deux Wargames, je les ai regardés facilement. J'ai bien aimé les combats de ceux qui se foutent à saigner. Le strap match était rigolo. Ouais, moi, je vais mettre un 3,5, voyez-vous. J'ai bien aimé. Ça me plaît.
C'est bien. Il y a de la discussion.
Il y a de la discussion.
Dans cette grosse analyse.
Il y a deux poids, deux mesures, deux analyses. Bien, les amis.
Ouais. Tu es pour le coup, Raphaël, pas mal dans la vibe des gens, mais tu notes plus bas quand même que ce qui est noté sur la majeure partie des sites américains, etc.
Ouais, mais le problème, c'est que je pense sincèrement qu'il y a un bonus NXT comme il y a un bonus AEW. J'ai l'impression que n'importe quoi qui passe sur ces shows-là, c'est directement un demi-point ou un point de plus par rapport à ce qui passerait sur Raw ou SmackDown. Il y a comme des trucs où je suis un peu étonné parfois de l'enthousiasme général.
Ah, mais moi, ouais. C'est ce que je te confirme. Hein. C'est vraiment, moi, j'ai été vraiment étonné en fin d'après-midi là, de découvrir les notes générales voilà, sur ce takeover. Parce que vraiment, je pense qu'on en a suffisamment reviewé ensemble des takeovers depuis pas mal d'années maintenant pour dire qu'on en a vu des largement supérieurs quand même.
Ouais, mais pour le coup, alors j'y pense parce que papy parle de ça, par rapport à la baston du mercredi, moi j'ai essayé d'accrocher un peu à AEW pendant moi presque 2 mois là pendant les confinements du printemps et j'ai un peu lâché et c'est vrai que bon il y a eu un peu de changement là, il y a un nouveau champion à AEW, il y a Sting tout ça, mais voilà, en regardant ce NXT, je me suis dit bon, c'était pas un 5 étoiles, mais finalement, j'ai pas spécialement envie d'aller voir ce qui se fait dans le produit concurrent parce qu'il y a quand même des beaux bonhommes là et je voilà, ça me suffit. Alors c'est peut-être une erreur de ma part, mais s'il y avait un mauvais NXT ou autre, ça me peut-être pousserait plus à ma curiosité et là c'est pas le cas. Surtout bon, d'après ce que j'entends et ce que je lis sur le Discord, c'est pas forcément une grande perte, mais bon, je trouve que NXT tient son rôle de produit différent par rapport au main roster en tout cas pour le moment. Pour le moment, à mon échelle personnelle, en tout cas, ça me fait rester sur le produit, là.
Je m'insurge. C'est très bien, la All Elite Wrestling. Arrêtez de critiquer la All Elite Wrestling, nom d'un chien.
J'ai rien dit en plus, là. Franchement, je me suis
dit... Ah ouais, pour une fois que papy... Pour une fois que papy dit rien, eh ben, c'est le Raphaël qui rajoute une couche.
Bon, allez.
Comment vous voulez qu'on vende le produit après derrière, hein, les amis? Comment vous voulez qu'on soit au top du top avec la baston du mercredi si vous me désinguez la All Elite Wrestling à chaque fois qu'on en parle?
Justement, c'est la vraie bonne baston parce que du coup, comme toi, t'es plutôt à les encourager et moi, je suis plutôt à les défoncer. Ça fait une vraie bataille de
C'est vrai.
Non, mais tu sais quoi, Chris? Un jour, je viendrai sur la baston du mercredi, c'est promis.
D'accord, je t'attends.
Ouais. Eh bien, je viendrai.
Ce sera notre guerre.
Ce sera notre guerre. Allez, d'ici là, les amis, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous tous les deux pour ce podcast du War Games. Nous, c'est pas la guerre, hein. Nous, on est en paix, on est l'amitié. Merci, tonton Chris, d'avoir été là pour cette analyse.
Eh ben, merci à toi, mon bon Raphaël. Hier, c'était un plaisir de te retrouver.
Eh ben, comme d'hab. Et puis, papy, bon, nous, on se voit plus souvent ces temps-ci, mais ça fait toujours plaisir. Hein. Merci, papy, d'être là.
Merci de m'avoir invité. Puis, bravo et merci d'avoir tenu bon face aux foudres de cette technique qui nous en veut.
Ah oui, là, il va falloir un jour, il va falloir faire quelque chose, la Discord, Craig, Alistair, ça va pas très bien, mais c'est pas grave. Si vous avez écouté jusqu'au bout, ben on vous remercie, on espère que ça vous a plu. Vu que cette analyse est particulièrement clivante parmi le peuple de Catch-Up, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes plutôt notation Tonton Chris, plutôt de mon point de vue, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voyez pour Gargano, l'Indisputed Era, si vous avez aimé les filles, les garçons, tout ça, en commentaire. Donc vous pouvez nous écouter, et ça y est, j'ai pas noté, j'ai perdu les noms, bon, il y a Spotify, il y a Apple Podcast et Google Podcast, si ma mémoire est bonne.
Et PodCloud.
Et PodCloud, voilà.
Et Spotify.
Et Spotify. Et puis
Ocha.
et Aosha, voilà, on fait une bonne équipe. Et vous pouvez nous trouver à Auchan, à Carrefour, à le Roi Merlin, tout ça. On est dans tous les bons magasins. À côté du rayon charcuterie, comme d'habitude. Bon, il y a la version vidéo sur YouTube et puis Facebook, Twitter et Instagram, Catch-up CDC, le Discord donc pour nous donner votre avis, votre analyse sur tout ce qui se passe dans le catch, dans le monde. Donc on se retrouve bien sûr très bientôt sur Catch-up. Et il y a du Monday Night Raw, et il y a du SmackDown, et il y a du TLC. L'année n'est pas finie. Et puis bah, quand l'année sera finie, on vous en fera un résumé. Donc n'hésitez pas à nous écouter à Noël, au Nouvel An, à Halloween et à Pâques. Moi je vous dis à très bientôt et ciao, à bientôt sur Catch-up.
Salut à tous.
Salut les gagnés. Salut Papa le Catch-up. Les salauds qui tabassent sur la Holo Wrestling, quoi. Les salauds.
Allô ? On respecte rien.
Salauds !